Et quand on rentrait, on allait chez un gars qui était ouvert, donc une sorte de donneur qui était ouvert. Mais sauf qu'il avait créé un truc qui s'appelait le Pounair. Le Pounair, c'était la fusion entre la poutine et le donneur.
Si ça se trouve, vous l'avez déjà expliqué, mais pourquoi on est ici exactement?
Vous êtes ici parce que vous êtes les meilleurs parmi les meilleurs.
Simply the best town.
Bienvenue dans ce nouvel épisode du meilleur podcast, le podcast où on parle des meilleures choses avec les meilleurs invités. Je m'appelle Cyrus.
Bienvenue à tous dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on va parler de voyage d'évasion. Cyrus, on va parler d'aventure.
J'ai hâte, j'ai mis mes meilleures chaussures.
C'est une émission sans frontières. Je suis Tom, merci à tous de nous écouter.
Et on a de très beaux invités avec nous. Je vais commencer par un invité qui est déjà venu au meilleur podcast. C'était un meilleur podcast un peu spécial puisqu'il était en live. Je parle bien entendu de Patrick Beau.
Bonjour les amis et merci.
Salut Patrick.
Merci pour cette invitation. Je suis très heureux de revenir dans ce podcast qui est excellent. On va pas se mentir.
Ça fait vachement plaisir.
Qui est le meilleur même, je crois, comme
oui,
son nom l'indique.
C'est écrit.
Tout à fait.
Patrick, tu veux te présenter très rapidement pour les gens qui te connaissent?
Je m'appelle Patrick Beau, je suis notamment le créateur de Axolot, la chaîne Axolot qui parle des curiosités du monde et notamment justement de lieux extraordinaires. Donc j'ai sorti deux bouquins qui parlent du sujet, qui s'appellent Terre secrète et lieux secrets. Donc j'ai hâte de pouvoir en partager quelques-uns.
Ah, même si c'est secret, tu peux en partager
Ouais.
Parce que je savais pas trop. Ok, d'accord,
ça marche. J'ai un contrat d'exclusivité.
On reçoit également pour parler d'aventure et de voyage, on reçoit Thomas de la team Les Others.
Exactement. Merci de m'inviter.
Merci à toi d'être
merci
là.
Merci à toi d'être venu.
C'est un plaisir. Est-ce que tu peux du coup présenter un petit peu ce que c'est Les Others et ce que tu fais?
Yes. Je m'appelle Thomas comme tu l'as dit. Je suis le cofondateur et rédac chef des Others. Les Others, globalement, c'est un média d'inspiration pour les amoureux d'aventure. Donc l'idée, c'est de reconnecter un petit peu les gens à la nature en utilisant l'aventure pour leur donner envie, montrer des beaux paysages, etc. Les Others, donc dans son format média, ça existe sous plusieurs supports. Donc il y a évidemment bien sûr le web, donc avec un site, les réseaux sociaux, la newsletter, etc. On a un magazine papier donc qui est à mi-chemin entre un journal de bord et un livre d'art qui sort tous les 6 mois, dans lequel on propose des documentaires, des reportages, des photos. Beaucoup de choses, des dossiers un petit peu sur tout le monde de l'outdoor. On a également un podcast qui s'appelle Les Baladeurs que je vous invite à aller écouter puisque on sait bien que la recommandation interpodcast
Exactement,
fonctionne très bien. Donc je vous invite à aller taper Les Baladeurs. Vous arrêtez l'épisode maintenant.
On se fait okay, faites
ouais,
ça
clairement.
Plus tard. Faites ça plus tard à la fin du podcast.
Et vous allez écouter Les Baladeurs. Et sinon on organise des petits événements aussi pour des projections de films, des conférences avec des explorateurs, etc., qui viennent nous raconter un peu leurs aventures.
Trop bien. Et d'ailleurs, j'ai le magazine entre les mains, donc Les Others. Est-ce qu'il y a une ref à Lost ou pas?
Pas du tout.
Ah merde, ok.
Je l'aurais pas parce que. Non.
Parce que tu sais, dans Lost, les autres, c'est.
Tout à fait, moi
les
j'ai.
Others.
J'ai pensé aussi, ouais.
Et j'ai cru que c'était ça. Ok.
Il y a le film.
On pourra re-raconter l'histoire et peut-être trouver une référence à Lost, mais pour l'instant, il n'y en a pas.
D'accord. Et ce magazine est vraiment très beau.
Très quali.
Ouais.
Et c'est gentil.
Alors attendez les invités. On se trouve quand même avec Tom. Est-ce que Tom, t'as pas des petites choses à nous dire? Est-ce que ce serait pas l'heure de ton édito? Est-ce que c'est pas l'heure de l'édit Tom?
Alors je vous préviens, je suis en colère. Hein. Non, parce que j'ai appris cette semaine que l'hôtel japonais Henna, hein, connu pour être le premier hôtel géré par des robots, il a justement renvoyé une bonne partie de ses employés robots. Et pire, il a remplacé ses robots licenciés par des humains.
Oh, nul.
Non mais on va
nul.
Où là? Non mais quoi?
Henna.
On remplace les machines par des humains maintenant, c'est
dégueulasse.
Ça? Ils vont prendre tous nos emplois? Ça y est, un cœur qui bat, un corps qui vit, c'est direct un CDI? Ah ouais. A priori, les robots.
Non mais très bon slogan, mais je le vois ce slogan. Précurseur. Mais...
Pour les pré-robotiques.
Ah mais
les...
précurseur. Ouais.
Mais a priori, les robots, ils avaient des bugs. Hein. Ça les empêchait de répondre aux questions des clients ou d'amener leur bagage des clients dans leur chambre. Ça va. Depuis quand c'est des compétences indispensables ça pour travailler dans l'hôtellerie? Non mais la mauvaise foi quoi, pour éjecter ces pauvres robots comme ça. Et on va leur proposer quoi comme plan de reconversion à Pôle Emploi? Un contrat d'intérim à l'attraction Pirates des Caraïbes de Disney? La figuration dans une vitrine de Noël des Gary Lafayette? Oui Cyrus, je vais me calmer et reposer ce petit pot de vitriol dans lequel je trempe ma plume. Ne t'en fais pas. Mais pas tout de suite. Non, avant j'aimerais parler des duty free. Non mais est-ce que c'est pas grave décevant les duty free en vrai? Parce que moi je me rappelle la première fois où j'ai pris l'avion, on m'avait vendu du rêve. Ah, le duty free, tu verras, c'est génial. Tu entres dans un monde sans taxes, sans frontières, sans lois. Et moi, bah, je m'attendais à avoir des trucs complètement fous et interdits, hein, comme si on était dans les eaux internationales. Des corridas de Labrador, un concert d'Amandalier ou une partouze de macroniste. Mais non, le truc le plus fou que j'ai vu dans un duty free, c'est un paquet de M&M's de 1 kilo.
Ce qui est bien déjà quand même.
Ouais. D'ailleurs, c'est fou, non, le choix des produits qu'ils vendent dans les duty free. Genre, il y a des clopes, de l'alcool et des bonbons. On dirait des enfants qui ont fait une grosse bêtise avec la liste des courses. Enfin, c'est qui ? C'est Bart Simpson, le responsable des achats ? Et les gars, ils se sont dit qu'avec l'excitation du voyage, t'allais avoir des pulsions pour acheter tout et n'importe quoi. C'est pas de la weed à un aéroport, les gars. À aucun moment, tu vas avoir envie de mettre d'un mètre de Toblerone avant d'embarquer. Hein. Enfin bon, bref, ça c'est mon point de vue sur le bonheur de voyager. Et c'est peut-être pas le vôtre, chers invités. Du coup, je voulais te demander, Patrick, en premier lieu, c'est quoi que tu aimes tant dans le fait de voyager ?
Eh bien, ce que j'aime dans le fait de voyager, déjà, c'est la découverte d'autres paysages, la découverte d'autres cultures, d'autres manières d'être, d'autres personnes. C'est le dépaysement, tout simplement, et l'émerveillement, souvent, si on choisit bien ses destinations. Mais je pense que, de toute façon, quel que soit le pays, il y a toujours des endroits intéressants et surprenants à découvrir. Donc, en gros, c'est à peu près ça.
Thomas, toi, ton rapport au voyage, c'est quoi ? Est-ce que, pareil, tu voyages beaucoup ? Est-ce que c'est quelque chose qui est pour toi vital ? Et qu'est-ce que tu vas rechercher dans un voyage en particulier ?
Alors, assez paradoxalement, je voyage pas beaucoup parce que depuis qu'on a lancé les Others, bah, en fait, on a une boîte à faire tourner. Donc, ce qui est assez marrant, c'est qu'on l'a lancé pour partager un petit peu notre passion de l'aventure. Donc, c'est un petit peu différent du voyage, je dirais, puisque l'aventure ne nécessite pas forcément de partir vraiment loin. En tout cas, dans le mot voyage, il y a vraiment une notion d'échapper, potentiellement même de prendre l'avion ou d'aller un petit peu loin, alors que dans l'aventure, on peut sortir de chez soi, faire 50 bornes en vélo, disons, et se retrouver n'importe où, en pleine nature, etc. Et là, les choses peuvent commencer. Donc, je dirais pas que je suis un grand voyageur dans le sens où j'ai assez peu voyagé quand j'étais petit parce que voilà, j'avais une famille qui avait pas les moyens de voyager. Donc j'ai commencé à voyager quand j'avais la vingtaine. Et en fait, à 25 ans, on a lancé les Others. Donc on a eu beaucoup, beaucoup de travail. Et on a commencé en fait finalement à voyager un petit peu moins. Alors que l'idée était de partager nos aventures. Après, ce qu'on va chercher, bah, je pense qu'on va un peu tous chercher la même chose. On va chercher à découvrir des nouveaux paysages, des nouvelles cultures, des nouvelles
bières, des nouvelles bières.
Voilà, beaucoup, exactement. Quand même. Enfin, beaucoup de nouvelles bières. Et non, mais voilà, on cherche à modifier un petit peu son quotidien, à parler une autre langue, découvrir un nouveau paysage, manger de la nourriture différente, etc., etc. Quoi.
Cyrus ?
Ouais.
Je te connais un peu plus, donc je sais que toi, t'as les jambes qui te démangent à certains moments et que t'aimes bien prendre ta boussole et partir comme ça à l'autre bout du monde. Je sais qu'il y a un moment où t'es allé au Japon.
Ouais.
Et il me semble que d'ailleurs tu avais croisé Patrick au Japon.
Oui, non, on devait.
On aurait dû, ouais.
C'était un
on
acte manqué.
Ouais, on aurait dû. Mais Patrick était trop occupé à manger un poisson hyper dangereux.
Il faut reconnaître que c'était quand même très compliqué de se retrouver. On était chacun
à l'autre bout de la
l'autre
capitale.
Bout de Tokyo, ouais. Qui est juste gigantesque.
Ouais.
Ça aurait été très compliqué logistiquement pour une soirée. Donc,
ouais, en gros, pour y aller, genre fallait que, enfin, je mettais une heure voire plus.
Je crois que c'est la ville la plus étendue du monde, non, Tokyo. Enfin,
en tout cas, c'est la ville dont la grande agglomération est la plus peuplée du monde. Plus de 40 millions d'habitants sur la grande agglomération.
C'est
donc
pas
c'est...
mal.
Ouais.
C'est
et du coup, Patrick, t'as mangé le fameux poisson là. Si c'est mal coupé, tu meurs et tout.
Le fugu. Alors, je voulais le faire. Et donc, on avait trouvé un restaurant de fugu.
Mais
donc,
le chef avait l'air un peu.
pas
un peu
top.
Moyen.
Ouais.
Alors, le truc, c'est que c'était très cher. Et donc, j'étais pas seul. Il aurait fallu que tout le groupe, évidemment, mange au même endroit. Et la soirée serait revenue très chère. Puisque, donc, pour avoir le droit de risquer de mourir, il faut payer assez cher, vu que les chefs qui préparent le fugu ont un diplôme à part, donc ils passent spécifiquement pour cuisiner ce poisson-là, donc finalement on l'a pas fait, mais j'aurais bien voulu tenter le truc quand même.
Parce que du coup c'est ça, le fugu c'est un poisson, si on explique un peu aux gens qui connaissent pas du tout, que c'est un poisson assez particulier qui a une seule manière d'être découpé, tranché, c'est ça, et si c'est mal fait, il peut être potentiellement nocif.
En fait, c'est un poisson
plus
qui...
que nocif, ça. Il
c'est...
tue, hein.
Ouais, bah, ouais, c'est un poisson qui contient une neurotoxine. Et enfin, c'est le poisson qui gonfle là. Donc, il contient une neurotoxine. Et effectivement, s'il est mal découpé, s'il est mal préparé, il peut rester éventuellement du poison dans la chair. Et ça peut être mortel, effectivement.
Cyrus, c'est quoi c'est quoi la plus grosse claque que t'as eue en voyage ? Le truc qui.
Putain, alors moi, c'était mon père. J'avais 13 ans. j'ai fait une bêtise. Et il a pas supporté, quoi. Vraiment. Et c'était. On était à Châtenay-Malabry, je crois.
Yes.
Non, non, ok. Si je réponds sérieusement à ta question, je pense que la plus grosse claque, c'est quand je suis parti, je crois que c'est la première fois que je voyageais seul, vraiment seul. C'est-à-dire que souvent, je voyage seul pour retrouver des gens et tout, mais là, je suis parti seul pour trois semaines.
Pour retrouver toi-même.
Exactement. Je suis parti à Katmandou. Et je pense que ma plus grosse claque, c'est ça. C'est genre, j'arrive. Je vois à quel point c'est pauvre et à quel point en fait genre j'ai une adresse mais elle me sert à rien parce que les rues n'ont pas de nom et qu'il y a pas de numéro,
pas
que...
de maison même.
Voilà, et tu sais genre je la montre aux gens et tu sais genre je suis incapable de parler avec eux parce qu'ils parlent pas anglais. Enfin, et là je me dis juste et je vois il y a des chiens errants partout et tu vois je sais pas il y a un truc qui fait que je me sens pas bien et donc je rentre dans ma chambre d'hôtel. Je change d'hôtel sur le champ parce que y a l'hôtel dans lequel j'arrive, où j'avais fait ma réservation, il est finalement plein. Ils se sont mal démerdés et tout. Du coup, ils me refourguent à un autre hôtel juste en face et tout. Bref, je trouve ma chambre, je me pose et là, je sors pas. Et je suis là, genre, putain, mais où est-ce que je vais bouffer? Enfin,
vraiment juste, la peur. Fin...
Juste, c'est tellement différent de ce que je connais.
Okay.
Et je suis tellement solo. Et genre, et je me dis, mais. Et je venais pour un truc de méditation de 10 jours, etc., qui commençait le lendemain. Donc j'avais hâte de commencer ce truc-là. Et là, je me dis, mais juste pendant ce temps-là, qu'est-ce que je vais faire, tu vois. Et ma plus grosse claque, c'est ça. Et alors que maintenant, du coup, je suis retourné un peu plus tard.
Ouais, parce que du coup, t'étais resté 3 semaines dans l'hôtel, c'est ça, sans sortir. Et tu t'es dit, c'est quand même un peu dommage, quoi.
Non, non, donc j'ai fait les 10 jours de méditation. Et après, je suis revenu dans un autre hôtel. Et finalement, après, ça a débloqué plein de trucs. Et du coup. J'ai même voyagé au sein du pays, j'y suis retourné après et vraiment maintenant quand j'y vais je réserve à peine une chambre, je suis vraiment, je me sens beaucoup plus à l'aise et voilà. Mais là j'avoue le premier choc d'être seul au milieu d'un pays qui est entre guillemets qui a l'air hostile, ouais, c'était une grosse claque, ouais.
Thomas, est-ce qu'il y a un témoignage en particulier ou t'as une expérience qui t'a vraiment bluffé quand tu l'as vécu ou quand tu l'as entendu?
Ouais, des témoignages il y en a plein là, il faudrait que j'arrive à scanner un petit peu tout ce qu'on a eu, mais... C'est vrai que vu qu'on a des contributeurs un petit peu du monde entier, on nous raconte des histoires parfois, mais c'est assez incroyable. Et même dans le podcast, c'est vraiment des aventures et des mésaventures en pleine nature. Donc, t'as des gens qui se retrouvent paumés sur des petites îles en Laponie pour aller prendre des photos, pour aller prendre en photo des lapins, et qui se retrouvent avec des anciens mecs de la CIA qui sont cachés sur des îles. Enfin, rien, des trucs fous, mais je pense que c'est toujours difficile de mieux ressentir une histoire que quand on l'a vécu. Donc je pense que là, je vais raconter un truc qui m'est arrivé. Et en fait, c'est une claque. Pour le coup, c'est vraiment une claque visuelle. Donc, je parlerai plutôt d'un petit village qui s'appelle El Chalten, qui est dans le sud de la Patagonie argentine. Donc, vraiment très proche de la frontière avec le Chili. Qui est un petit village qui doit y avoir peut-être 100 ou 200 maisons, je dirais, en bois, vraiment enclavé au milieu d'une montagne. Donc, la montagne autour, c'est c'est le prolongement de la cordillère des Andes. Donc, il y a le Fitzroy autour, qui est une montagne très connue dans le monde de l'alpinisme, de l'escalade, etc.
Alors, juste, excuse-moi, je te coupe, que tout le monde soit au courant. T'es en train de raconter quel est pour toi le meilleur endroit à découvrir dans le monde.
C'est le choix de... Ok.
C'était pas la question qu'on m'a posée ?
Non. Si, bon, là, c'était s'il y avait une autre claque en particulier, mais vas-y, nous, on a un podcast, on dit les trucs qu'on a envie de dire, il n'y a pas...
Au moment où on a envie
trucs,
de le dire, voilà, feel free.
Ça marche, on me prévient pas, moi.
Vas-y.
Donc, du coup, ouais, cet endroit qui est vraiment un lieu qui est fréquenté, donc à part les habitants, vraiment que par des grimpeurs et des randonneurs. Et en fait, il y a des randos qui partent du petit village de partout, qui vont vers des lacs d'altitude, qui vont justement jusqu'au pied du Fitzroy, donc cette montagne, etc. Et cet endroit, c'est le premier endroit de ma vie où j'ai vraiment eu l'impression que le temps, je sais pas comment l'expliquer, mais le temps file pas, quoi. Le temps, il s'écoule tranquille. T'es là et en fait t'es là vraiment. T'es là, y a rien d'autre. De toute façon, t'as pas de réseau. De toute façon, y a rien dans les supermarchés. Y a un supermarché. Nous, on était hors saison. Y a rien dans les rayons. Y a deux auberges, deux restos et des randos, quoi.
C'est surtout une claque visuelle, quoi.
Ouais, c'est visuel et enfin,
sonore aussi, j'imagine, non? Ça doit être très calme, ça doit être...
C'est très calme, mais il y a beaucoup, beaucoup de vent. En fait, le climat en Patagonie, comme ça, ça change très, très rapidement. Et les grimpeurs qui vont, par exemple, essayer d'escalader ces montagnes-là, parfois, ils attendent 3 mois dans le village qu'il y ait une fenêtre de 5 jours de beau temps pour aller tenter leur chance, quoi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de vent. Mais bon, à part ça, il n'y a rien, quoi. C'est des millions de kilomètres carrés de vide. Il y a quelques gauchos, quelques chevaux et deux, trois... Et deux, trois léopards, quoi. Léopard, non, ça doit pas être des léopards, ça doit être des cougars, plutôt.
Patrick, est-ce qu'il y a une expérience, toi, un voyage qui, pareil, t'a vraiment mis une claque en particulier ?
Alors, il y en a plusieurs, mais puisqu'il faut en choisir un, je parlerai de Lanzarote, en particulier, qui a été une vraie révélation. Donc, Lanzarote, c'est une des îles des Canaries. Donc, c'est l'île qui est le plus à l'est de l'archipel. Les Canaries, c'est au sud de l'Espagne. Et ce qui est assez surprenant avec cet archipel, c'est que chaque île, vraiment, a son identité, sa végétation, son apparence propre. Et Lanzarote est sans doute la plus surprenante des sept. Donc il y a sept îles dans l'archipel, parce qu'elle a été couverte de lave il y a à peu près 300 ans de ça. Donc il y a eu une énorme éruption volcanique. Et l'île s'est retrouvée donc recouverte de lave. Et encore aujourd'hui, elle est recouverte de lave parce que au cours du XXe siècle, donc il y a un artiste de l'île qui s'est battu. Alors j'ai plus son nom en tête là, mais il s'est battu pour que l'île conserve son aspect sauvage, pour qu'elle ne soit pas envahie par les promoteurs, ce qui est le cas d'autres îles de l'archipel comme Tenerife par exemple. Les panneaux de pub sont interdits sur les routes. Sur l'île, il est interdit de construire des bâtiments de plus de 2 étages, donc pour respecter le paysage, sauf dans la capitale de l'île. Mais sinon, dans le reste de l'île, on a principalement des villages qui respectent tous la même charte graphique, entre guillemets, des villages avec des murs à la chaux blanche et des portes et des volets verts. Donc ils se sont tous mis d'accord, on est assez fous. Et donc quand on est sur cette île, on a l'impression d'être sur une autre planète, vraiment. Il y a un côté martien, ce qui, moi, me fait souvent dire que Lanzarote, c'est un peu l'Islande du Sud. Dans le sens où on a un peu ce même type de paysage extraterrestre, très volcanique, avec des roches multicolores, tout ça, très sauvage, mais il fait 20 degrés toute l'année, et il y a beaucoup moins de monde. Et donc, à Lanzarote, il y a notamment un site volcanique à l'ouest de l'île, donc l'épicentre de la fameuse éruption, qui est donc rempli de montagnes multicolores hallucinantes, avec donc des minéraux verts, bleus, rouges, donc c'est très très beau. Et il y a un lagon, aussi un lagon vert. Donc avant d'y aller, j'avais vu des photos et je pensais vraiment qu'elles avaient été légèrement boostées sur Photoshop. Et en fait, non. Donc il y a une plage de sable noir à proximité de ce parc volcanique là. Plage de sable noir qui est donc face à la mer bleue. Et dans la plage, à l'intérieur de la plage, il y a un lagon vert, mais vraiment vert fluo. On dirait des déchets radioactifs, sauf que c'est totalement naturel.
On ressort juste avec un troisième bras, mais je veux dire, sinon, une baignade très agréable.
Et le lagon se trouve contre donc une paroi rocheuse rouge. Donc on a ce truc rouge, vert, bleu, noir.
Et c'était daltonien, c'est pas
ouf. Compliqué.
C'est
compliqué. Tu fais
enfin, sorte c'est de nul, ce sable, Kevin.
Ouais, tu...
super, l'eau.
Les champs de lave là-bas, c'est assez dangereux parce que c'est vraiment des roches effilées. Tu vois, si tu tombes dedans, c'est chaud. Et donc j'étais avec ma compagne et donc on avait fait une rando. Et la nuit commençait à tomber, et donc on s'est dit, oui, on va prendre un raccourci pour regagner la voiture. On se lance dans le truc, et donc au milieu du champ de lave, je me suis dit, on s'en sortira jamais. On va vraiment rester là, on va crever, parce que le truc, c'est vraiment rempli de roches hérissées comme des lames de rasoir. Et si tu te casses la gueule, tu vois, il n'y a personne en plus, vraiment, t'es dans un champ hostile.
Mais c'est mourir avec une belle vue quand même, ce qui est quand même ça, en soi une forme de luxe.
J'avoue.
On va pas, voilà.
Et en ayant pris un raccourci, donc t'as gagné du temps quand même.
Oui, il y a des gens qui sont morts à Dijon. Enfin, je veux pas être désagréable aux gens qui sont à Dijon, mais.
Ouais. Donc on a réussi. On a réussi à le traverser, mais pile quand la nuit est tombée. Et voilà. Vraiment, si vous voulez être dépaysé, faire un voyage qui vous donne l'impression d'être sur une autre planète, sans partir trop loin non plus, Lanzarote, c'est extraordinaire.
Je pense qu'on va pas sortir ce podcast, hein. On va garder pour nous les petites adresses. Hein.
Il l'a bien vendu, il bosse pour l'office du tourisme.
Il croit toujours que c'est un vrai podcast alors qu'on voulait juste planifier nos vacances.
Ah,
yes, c'est bon. Est-ce que pour toi, Saint-Patrick, c'était le meilleur endroit à découvrir sur Terre?
Ah non, moi je croyais qu'on y allait dans un deuxième temps.
On
est arrivé
dans un deuxième temps, mais comme Thomas a grillé la cartouche directe.
Moi, on me pose des questions floues, je réponds.
Putain, non, ça c'est même pas ta réponse, mec.
Non,
c'était faux. Moi je voulais voter pour ça directement déjà.
D'accord.
Arrêtez là.
Non.
Directement.
Non, mais on vote pour ça, c'est fini.
Mais voilà.
En fait, pour le meilleur, je voulais parler d'un lieu dans lequel je ne suis pas allé, mais dans lequel je rêverais d'aller.
Alors, garde ça sous le coude, on va y venir. Cyrus.
Ouais. Toi, Tom, tu parles pas assez aussi, je trouve. Et toi, c'est quoi qui t'a mis une claque?
Qui m'a vraiment mis une claque? Alors moi, déjà, j'ai pas fait d'immenses voyages. J'ai fait beaucoup de voyages en Europe et des voyages internationaux. J'étais en Thaïlande et en Chine.
Internationaux, peut-être.
Internationaux, peut-être. Même sûr, en fait. Même internationaux, sûr. Et,
Là, le mec qui est à Dijon, il se dit « Chais
!» Non, mais en vrai, voilà, j'ai dit Dijon, c'est tombé sur vous, les gars. Je suis désolé, ça peut être n'importe quelle
on
ville.
On embrasse Dijon.
Aussi,
embrasse
hein, Dijon. Voilà, Dijon, on adore.
Enfin, ça peut être n'importe quelle ville, mais pas genre, je sais pas, Tokyo. Voilà, New York.
On va pas se le cacher, il y a quand même un petit.
Voilà. Et, allez, on continue.
Du coup, mon plus grand dépaysement, il a été global. Ça a été en Chine, où pour le coup, j'ai vraiment compris le sens de choc de civilisation. Où ça a été vraiment une immersion dans un endroit où il n'y a aucun repère ou code que nous, occidentaux, on a l'habitude d'avoir, que ce soit dans la bouffe, la communication, les coutumes. Donc du coup, c'était génial parce que n'importe quelle action était un truc nouveau à faire.
Bah, eux, ils marchent sur les mains déjà.
Voilà, c'est, déjà, ça c'était vraiment, assez étonnant. Ils sont bleus déjà aussi.
Ouais, ça, c'est assez ouf.
Et donc non, du coup, c'est vrai que la moindre action était une aventure en fait. Et c'était hyper cool parce que du coup, tout était nouveau. Mais d'un autre côté, il y a eu des gros moments de galère, quoi. C'est-à-dire que vraiment, la communication, l'anglais, ils ne maîtrisent pas du tout. Et que c'était des moments où on devait vraiment raconter par emoji qu'on voulait un taxi pour aller à l'aéroport, quoi. Et vraiment, il y avait des séances de rébus où nous, on était trois potes. Et en face, il y avait tout le personnel de l'hôtel qui essayait de comprendre ce qu'on voulait dire et tout. Et c'était assez fatigant parce que tout ça était à prendre en considération de n'importe lequel de tes choix, quoi. Et genre la nourriture, pareil, c'était assez décevant parce que du coup la nourriture chinoise à laquelle on a accès, elle est vachement occidentalisée. C'est des plats qui sont faits pour des trucs dont on a un peu l'habitude, et là-bas elle est pas du tout comme ça. Ouais. Et t'arrives dans des restaurants la plupart du temps où il n'y a pas de traduction, il n'y a pas de photo, et t'y vas au hasard, quoi. T'essaies de montrer des emojis d'animaux pareil sur ton téléphone. Nous, je me rappelle, on prenait des captures d'écran de guides de traduction pour le moment où on n'avait pas du wifi pour les montrer et tout. Enfin, c'était... En plus, j'étais avec un pote qui était allergique aux oignons, un pote allergique aux cacahuètes. Enfin, ouais. C'était vraiment... le moment où il fallait manger, on voulait l'éviter, quoi. C'était vraiment...
Bon, les gars, il est 15h, on voilà, a... Enfin, ça
on
y est,
a
là.
Faim, vraiment. Mais bon, on peut peut-être tenir jusqu'à ce soir et manger un McDo. Et du coup, ouais, en termes de claque, la Chine, par rapport à ça, c'est un pays magnifique et j'ai adoré y aller et c'était fou. Mais en termes vraiment de vie quotidienne, c'était vraiment une claque dans le sens où tout était assez compliqué. Et voilà, quoi.
J'imagine que ça devait être chaud. Je rebondis juste sur l'histoire des emojis. Ça me fait penser à... Tu sais, on a fait une vidéo sur un pop-up sur les emojis.
Ta chaîne YouTube.
Ouais. Et on a parlé justement de ce t-shirt. Il y a un t-shirt qui existe avec tous les emojis et qui est fait pour les touristes. Qui genre arrive dans un pays où genre qui parle pas ta langue, et ben t'as un t-shirt et donc t'as les emojis directement sur ton t-shirt et donc du coup c'est plus facile de communiquer, quoi.
Ça te fait un beau t-shirt en plus, donc
c'est stylé, quoi.
Ce qui est pas mal.
Et alors je rebondis sur ton rebond, et j'ai entendu parler aujourd'hui dans ces espèces de nouveaux services, nouvelle façon de voyager, qu'il y avait dans certains hôtels, c'est Ibis notamment qui fait ça dans des grands hôtels autour du monde, des babysitters Instagram. En fait, tu leur files ton téléphone pour les deux jours où tu restes, eux, ils les blindent de belles photos et tout, et ils te les publient pour toi sur Instagram. Ouais,
mais non.
Et du coup, toi, tu peux kiffer ton voyage, c'est ça le truc?
Exactement, sans prendre de photos, mais du coup, c'est pas mal.
Parce que c'est vrai qu'il y a une pression Instagram.
Quand énorme.
Dans un bel endroit, tu dis, il faut que je prenne des photos.
Faut le rentabiliser,
mais
quoi.
C'est dingue, ça.
Mais je rebondis sur ton rebond.
Mais ce n'est plus une émission, c'est un trampoline.
Et je fais un salto, tout simplement.
Voilà, hop là.
Et tu dunks.
Et je dunk. Et je dunk. Voilà.
Quelle star. Et du coup, ouais, ce truc Instagram, je trouvais ça assez fou.
C'est dingue.
Vous prenez beaucoup de photos quand vous voyagez, vous les partagez tout ou vous en foutez? Thomas?
Je prends pas mal de photos. En fait, j'ai fait une petite overdose de photos en Islande, je crois. Déjà, on en avait un peu soupé de l'Islande sur les réseaux ces dernières années. J'y suis allé il y a 5 ans, je crois. On en avait déjà... Ça faisait déjà peut-être un ou deux ans que l'Islande commençait à bien être à la mode. Et donc, c'est vrai que les premiers temps, quand il y a une destination un peu comme ça, dont tu n'avais jamais vraiment trop entendu parler, tu savais que ça existait, tu voyais un peu à quoi ça ressemblait, mais sans plus, et que tu as vraiment envie d'y aller, tu y vas. Et c'est vrai que j'avais un appareil numérique, j'avais pris peut-être 2-3 000 photos. Et en rentrant chez moi, bah, je ne les ai jamais ressorties aucune fois parce que 3 000 photos. Donc ce jour-là, je les ai laissées de côté, j'ai aucune photo d'Islande qui est sortie nulle part. Et sur le voyage d'après, je sais plus ce que c'était, mais je me suis en gros acheté un appareil argentique et je suis revenu avec 60 photos et voilà.
Ouais, maintenant, la même chose.
Maintenant je fais ça.
Ouais, j'ai fait la même chose et je trouve que ça change grave ton rapport à la photo et ça change grave à...
T'as un objet.
Bah déjà c'est... quoi?
Enfin t'as un objet, la photo argentique, elle est...
Ouais mais c'est pas trop ça.
Si, c'est ça que tu veux dire je crois.
Non,
j'aime mieux que toi.
Parce que moi tu vois genre je les scanne, enfin la plupart du temps je demande juste les scans, je demande même pas l'objet. Donc c'est même pas l'objet, c'est juste le fait que déjà t'es limité dans ton nombre. Ensuite, tu vois pas le résultat tout de suite.
Ouais, ça c'est très cool. Et ça c'est une des caractéristiques principales, ouais, qui fait que tu vas.
T'as le temps de l'oublier.
Tu vas l'oublier, tu vas un peu la fantasmer, et puis en plus tu vas perdre tes pellicules dont tu la verras jamais de toute façon, et puis voilà, c'est.
Ouais, et puis tu sais, t'es obligé de demander aux gens de prendre la photo, tu vois, parce que du coup tu peux pas cadrer avec le mode selfie, enfin c'est trop compliqué. Donc t'as vraiment ce truc un peu à l'ancienne de. Et ça devient vraiment plus une photo souvenir, tu vois, c'est plus une photo. C'est soit hyper arty, soit souvenir, mais je veux dire, ça va plus être juste une photo pour une photo. C'est-à-dire que chaque photo est pensée de. Ok, elle sert à quoi cette photo ? Est-ce que je vais travailler la composition et je vais essayer d'en faire un truc hyper chouette, hyper beau ? Ou est-ce que c'est juste pour me souvenir de ce moment-là parce que ce moment-là me touche ? Alors que tu vois, quand t'as un appareil photo numérique, t'es plus en mode « Ah, sympa cet endroit !» Voilà, allez, on avance.
Ça fait pas vraiment ce bruit, hein, les appareils photo numériques.
Ouais, mais moi c'est un spécial. Moi, il était, il était japonais.
Il est doublé.
Ouais, c'est les appareils... ça s'appelle. Ouais.
Stylé. Le lien dans la description.
Dans la description.
Mais c'est moins grave que le mal-être de notre siècle, qui est les gens qui prennent des photos avec leurs iPads. Moi, c'est un truc que
qui sont des gens d'un âge
certain
un petit
âge,
peu avancé,
oui, effectivement.
Ma grand-mère a fait ça. Ma grand-mère.
C'est vraiment.
Mais c'est parce qu'elle dit, et je comprends, elle dit, mais je vois mieux, quoi. Je vois mieux la photo.
Normal.
J'avoue.
Bien sûr.
Clairement. J'aimerais bien voir quelqu'un avec une télé.
Oui, ouais, mais c'est pour vachement mieux voir.
Non, mais voilà, il y a un vrai sujet, notamment dans l'outdoor et surtout dans le voyage, en fait, de bah, justement éviter de. En fait, pour la photo parfaite, bah, les gens font n'importe quoi. Pour la photo parfaite, bah, on peut parler de Trolltunga, ces trucs où tu vas faire des queues de 3 heures juste pour avoir une photo d'un endroit où il y a les gens. Les gens font littéralement la queue pour avoir la photo, ça devient dangereux.
Trolltunga, c'est quoi, tu peux...
Ah ouais, alors Trolltunga, c'est une sorte de rocher qui surplombe le vide en fait en Norvège, auquel tu accèdes après une rando, voilà, qui est pas spécialement difficile, donc qui est quand même en fait très accessible. Et c'est des endroits qui ont été... posté sur Instagram par un ou deux influenceurs, puis 3, puis 4, puis 5. Puis en fait, maintenant, il y a 100 milliards de photos de Trolltunga, qui sont toutes les mêmes, parce qu'en fait, il n'y a pas des millions de points de vue possibles, qui sont toutes les mêmes, et qui, en fait, ça n'a plus vraiment d'intérêt. Ça fait que ça fait qu'il y a tous les ans deux fois plus de personnes que l'année d'avant sur cette rando. En fait, les endroits comme l'Islande, où il y a des villages dans le sud de l'Islande, Vik notamment, où il y a, je crois, 2 millions de touristes par an, alors qu'il y a 300 habitants. En plus de casser un peu le côté artistique, puisque de toute façon j'ai pris 3000 photos, donc en fait elles n'ont plus aucune valeur, bah, y a aussi ce côté protection de l'environnement, protection des lieux, des cultures, des espèces et de tous ces trucs-là. Les gens qui vont faire des feux dans des endroits où c'est interdit, juste pour avoir une super photo de feu de camp, etc. etc. quoi. Donc pour le coup, c'est peut-être plus dangereux même que de prendre des photos à l'iPad, de prendre des photos.
C'est plus dangereux que la perche à selfie, qui, rappelons-le, a été responsable de pas mal de morts.
Oui, une dizaine de morts, je crois. Ouais. Plus que les requins, je crois, ouais. C'est un truc comme ça.
Bon, attention, les requins, ils ont pas fait grand-chose. Trolltunga, la traduction, c'est
la langue du troll.
Chips. Hop là, allez, on fait le podcast à deux, Tom. Hop.
Donc toi, le Népal, t'as trouvé ça bien, Cyrus, c'était.
Patrick Thomas.
Allez, hop.
Merci, c'est cool.
Je vous ai déchipsé.
Voyager, c'est aussi voyager dans l'assiette.
C'est vrai.
Ça passe par le ventre.
Meilleure transition, Evan, ouais. Je dirais.
Ouais, voilà, c'était travaillé, tout est travaillé. Est-ce qu'il y a des plats en particulier, un plat ou un aliment que vous avez goûté qui vous a soit traumatisé, soit surpris, ou vraiment votre expérience culinaire la plus ouf dans le monde?
J'ai.
Vas-y.
Ah, je suis trop chaud. J'ai vécu donc 5 mois au Canada. Pour un échange universitaire. Et
Canada,
genre...
c'est au nord des États-Unis, c'est ça?
Exactement, ouais. Et donc, dans une ville qui s'appelait Kingston, entre Ottawa et Toronto. Et il y avait un mec à quelques rues de chez nous. Je vous passe cette période de ma life, mais genre, on vivait dans une maison, on était 7. C'était une, genre les maisons de fraternité, quoi. C'est genre, vraiment, c'était ouf, c'était la teuf tout le temps. Enfin, bref, voilà, c'était la folie. Et enfin, pas la teuf tout le temps, mais des fois tu rentrais quand il faisait la teuf.
Tu viens de te rappeler qu'il y a ta mère qui écoutait, c'est ça?
Non, mais non, parce que c'était quand même, je me suis rappelé que c'était quand même hyper dur les études, entre guillemets, là-bas. Mais quand il faisait la teuf, genre la maison était retournée, quoi. Et on allait souvent donc en boîte pas très loin. Et quand on rentrait, on allait chez un gars qui était ouvert, donc une sorte de donneur qui était ouvert. Mais sauf qu'il avait créé un truc qui s'appelait le Pounair. Le Pounair, c'était la fusion entre la poutine et le doner.
Oh là là.
Et wow. C'était la folie.
Oh là là.
C'est-à-dire qu'il prenait sa petite barquette là, il te mettait de la viande de kebab, de la salade machin et du fromage de poutine, tu vois, et de la sauce et une sauce spéciale. Donc en gros, c'était une sorte de poutine, mais sauf que au lieu que ce soit juste des frites et, et je sais plus quoi, c'est genre de la, enfin c'est genre du kebab quoi.
12 000 calories le truc.
Mec, on prenait ça, on rentrait dans des, en plus on n'était pas dans un état totalement
net,
hyper hyper normal. Tu vois.
Sinon tu peux pas manger ça de toute façon.
Attends mec, on mangeait ça et je vous jure, ça m'est pas arrivé souvent dans ma life, ça arrivait genre peut-être deux ou trois fois. Il y avait genre des vraiment un orgasme, mais vraiment un orgasme cérébral de bouffe, mais vraiment un orgasme, je te jure.
Sur
mec,
de la poutine kebab.
Et tu vois, genre c'était clairement trop pour la soirée, donc souvent on en mangeait juste deux cuillères, histoire d'avoir genre, mais on se regardait, on disait ah, waouh, vraiment, c'était ouf quoi. Hop, on mettait ça au frigo et on terminait le lendemain, tu vois. Bon, le lendemain c'était beaucoup moins dingue, mais j'avoue, en termes culinaires, je trouve que cette fusion, et donc c'était. Le mec c'était un Turc qui s'était installé dans cette zone là du Canada et tout, et genre il avait fusionné les deux meilleures choses qu'il avait niveau bouffe entre donc le doner et la poutine, et genre c'était, j'ai trouvé ça grandiose, grandiose, okay. Franchement grandiose.
C'est une sorte de doner d'orgasme un peu du coup.
Oh wow. Allez.
Yes.
Bah d'ailleurs, on arrive.
Poutine, elle est bien cette bande.
En arrivant au podcast tout à l'heure, on a vu un donneur qui s'appelait Mac Donner. Je me suis dit, mais comment ça se fait que personne n'y avait pensé?
C'est vrai.
Mais là, franchement, donneur d'orgasme.
C'est clair.
C'est un truc à faire.
Top du game. Ouais.
Il y a un plat qui vous a, Thomas ou Patrick, ou un aliment qui vous a vraiment surpris, marqué plus qu'un autre?
Bah moi, je vais revenir sur l'Islande, mais en Islande, par définition, ils mangent beaucoup de poissons. Et par définition, tous ces pays-là ont un peu leur spécialité. Quand on mange du poisson sous toutes les formes, donc jusqu'au poisson séché dans une espèce de petit pochette plastique que tout le monde mange là-bas, mais que toi, tu comprends pas déjà rien qu'à l'odeur, tu comprends pas ces choses-là. Mais en fait, quand tu te retrouves dans une espèce de... En Islande, il y a une région qui s'appelle les Fjords de l'Ouest, donc qui est vraiment au nord-ouest de l'Islande, qui est vraiment paumée, genre rien du tout. Les seuls trucs que tu peux faire, encore une fois, bah, c'est de la rando dans des paysages incroyables, mais il y a une maison toutes les 4 heures de route. Enfin, c'est des trucs... Tu prends des petits bateaux pour aller sur des... pour aller rejoindre des petites langues de terre, pour aller faire des randos et tout. Et au bout de 12 heures de rando, t'as plus rien à bouffer, tu t'es fait tabasser par le vent, par la pluie, etc. Le seul truc que t'as à bouffer, c'est ça, parce que c'est le truc qui est dans la poche intérieure de ton guide, etc., etc. Et donc tu manges ça, qui est évidemment infectissime, genre le truc qui est immangeable. Enfin, t'as que ça à manger, mais tu le manges pas. Enfin, tu te laisserais mourir de faim à cet endroit-là pour ne pas y toucher.
Poisson, une sorte de poisson séché.
Ouais, exactement.
Okay.
Ça doit être, je ne saurais pas quel poisson c'est, mais...
On n'est pas sur la même expérience.
Non.
Est-ce que ça ressemble à la nourriture pour les poissons rouges et tout, un peu? Genre en goût et tout?
Alors, j'en ai pas mangé beaucoup, mais je crois pas. Non, ça ressemble pas trop à ça. C'est vraiment... ça a vraiment un goût de poisson, mais dans sa version la plus pure. Tu sais, comme parfois le poisson peut être écœurant quand t'as l'impression qu'il est vieux ou qu'il sent un peu fort, etc.
Sympa.
C'est la même chose, très sec, très salé, et puis voilà.
Cool.
Bon app.
Ouais, ça a l'air cool.
Ouais, pas de problème. Je te ramènerai
avec plaisir. Patrick, il y a un plat qui t'a marqué plus qu'un autre?
Alors moi, le premier qui m'est venu à l'esprit, parce que c'était original, enfin je connaissais pas, c'était à Tokyo. Donc il y avait un restaurant dans lequel ils faisaient une spécialité d'une région du Japon.
Le fugu, on sait, tu l'as déjà raconté, Patrick.
Tu l'as pas mangé en plus.
Patrick, oh là là, je suis un peu ce que tu dis.
Donc c'était pas ça. Mais donc c'était une spécialité d'un certain village, je crois, ou d'une région du Japon. Et donc, en fait, t'as une plaque chauffante sur la table. T'as une plaque qui prend quasiment toute la table, ou pas totalement pour ne pas te brûler évidemment les coudes quand tu les poses dessus. Et ensuite, donc on t'apporte des tas d'ingrédients, des légumes, des œufs, des tas de machins. Et tu jettes tout ça sur la plaque. Et ensuite, t'as des petites palettes là, et tu te crées ta propre galette.
Ah, mais c'est l'okonomiyaki.
C'est l'okonomiyaki, ça?
Ouais, c'est l'omelette de chou, un peu. Enfin, on dirait une sorte d'omelette.
C'est ça ressemble à une omelette
avec masse de maillot au-dessus.
Ça se rapproche de ça en tout cas. C'est vrai que ça ressemble à une omelette. Bon là, il y a pas de maillot comme je te dis.
Mais ça c'est de la balle, mec.
Mais voilà.
Ça, donc, c'est
je connaissais
balle.
Pas ce truc-là et
pareil.
Alors,
je connaissais pas.
Visuellement, là
vas-y,
où on était,
tu connaissais. T'avais l'air de connaître là quand même.
C'était pas ouf à regarder. C'était pas très appétissant forcément posé sur le truc. Il y avait un petit côté quelqu'un a gerbé sur la table. Mais une fois que là aussi. Donc une fois que t'as bien fait ta petite galette là et que c'est bien cuit, c'est très bon.
Cyrus,
oui.
C'est quoi pour toi le meilleur endroit à découvrir au monde?
Ah, ça y est, on rentre dans le vif du sujet.
Ouais,
là.
Allez, boum!
Alors, Tom, on est d'accord, on parle du meilleur endroit à découvrir au monde?
Exactement. Donc, c'est-à-dire l'endroit où si tu devais dire à quelqu'un qui dit « je sais pas trop où aller dans le monde, est-ce qu'il y a un truc vraiment qui est ouf, que tu me conseilles à faire, qui est pas trop connu, etc. etc. » Qu'est-ce que c'est?
Eh ben moi, je pense, Tom, que c'est soi-même.
Oh non.
Wow.
Oh le porc.
Wow.
Oh Polo Coelho quoi.
Attends, le mec, ouais. Un Deus Ex Machina qui est apparu d'un coup, qui change tout.
Moi je pense que c'est le voyage intérieur, Tom. Je m'explique.
C'est vrai, c'est ta vraie réponse?
Je sais pas. Pour l'instant. Pour l'instant, c'est ma vraie réponse, peut-être que je changerai.
Soit ça, soit New York.
Non mais en gros, moi je pense que tu vois, genre il y a tout à l'heure on parlait du rapport au voyage. Le truc c'est que le voyage on aime tellement ça parce que ça nous permet de vivre dans l'instant présent pendant un moment. En fait c'est tellement tu portes tellement d'attention à tout ce qui se passe, toutes ces choses nouvelles, tous ces éléments autour de toi que t'as pas l'habitude de voir, etc. machin. T'es en telle observation que vraiment tu vis l'instant, t'es dans l'instant présent. Et c'est pour ça que tout à l'heure tu disais le temps semble s'arrêter à cet endroit là bah c'est ce qui s'appelle être dans l'instant présent. C'est-à-dire qu'en fait vraiment tu es là, tu es présent, tu es... Voilà. Et c'est pour ça qu'on kiffe autant le voyage. Et en fait, c'est très difficile à reproduire l'instant présent dans notre vie de tous les jours parce qu'on est face à des trucs qu'on a l'habitude de voir tout le temps. Et donc, c'est très difficile de les regarder en pleine conscience, quoi. Tu vois, genre, c'est... bah, ton parquet, voilà, tu l'as vu mille fois, il n'y a rien qui t'extasie devant ton parquet, tu vois.
Ou alors c'est un exercice, justement.
Ou alors c'est un
tu
exercice
fais l'effort de le faire.
Et tu fais l'effort de le faire, exactement. Et donc c'est ça qu'on kiffe dans le voyage en fait. Ce qu'on kiffe dans le voyage, c'est être présent à soi. C'est pas forcément tout, pour moi tout le reste, tous les endroits et tout. Oui, c'est beau, oui, c'est dingue et tout. Mais est-ce que c'est pas des prétextes? Tu vois ce que je veux dire? Donc en ça, je pense que voilà, je trouve que peu importe le voyage en fait, la chose que tu vas chercher à chaque fois, c'est toi.
Ok. Bah
c'est pas une manière de contourner la question, on va pas se mentir.
Oui.
Mais
waouh. Non, mais ça fait plaisir de voir que tu travailles les émissions en tant que moi, c'est super. Non, mais pourquoi pas? Tu es adepte de la méditation, ça tient la route.
Alors, t'aurais pu nous balancer un super coin de San Francisco,
ouais,
de Montréal,
clairement.
Ou.
Mais bon,
il y en a tellement.
Bah, il a déjà parlé de la Pooner.
Pooner, ouais.
Du Pooner. Ouais. Ok, donc se connaître soi-même. Très bien.
J'ai discuté avec le mec du Pooner pour lui dire est-ce que je peux le créer à Paris, quoi. Il m'a dit franchement,
franchise.
Il y a moyen, on était, avec mon pote, on était tellement ouf,
aïe, aïe, aïe.
Vraiment c'était un projet, c'était
Allez.
Un projet, tellement c'était dingue, ça nous rendait dingue ce truc. Franchement, entre se découvrir soi et découvrir le Pooner, vraiment, vraiment, découvrir Pooner, enfin, mille fois.
C'est mieux.
Ah. Vous
voilà,
attendrez
donc c'est
le Nirvana
ça,
beaucoup plus vite.
C'est le Pooner ta réponse, dis-le Cyrus. C'est quoi Patrick pour toi le meilleur endroit à découvrir au monde?
Je changerai sûrement d'avis. Hein.
Non.
Alors... Il y en a un que je rêve de découvrir, donc je ne l'ai pas vu, mais si j'en crois les témoignages des amis qui y sont allés, c'est aussi extraordinaire que ce que j'ai pu voir.
C'est Mars?
Non.
C'est pas si fou Mars, moi, on en reparlera, mais j'ai fait un week-end pas fou.
Lanzarote,
ouais.
Donc c'est le lac Moraine dans le parc national de Banff au Canada, et donc c'est sans doute, pour moi en tout cas, un des plus beaux paysages du monde, c'est juste irréel. Donc il y a plusieurs lacs glaciaires dans ce parc, donc la particularité de ces lacs glaciaires c'est qu'ils sont bleu turquoise, donc il y a un bleu vraiment particulier qui vient des poussières rocheuses en suspension dans l'eau, et donc c'est une couleur qui est unique. Et en plus ce lac là, il se trouve face à 10 montagnes, donc 10 pics. Donc on a une espèce de paysage de conte de fées, quoi. Tu vois, un truc à la Seigneur des Anneaux, le lac bleu turquoise devant les 10 pics. Donc voilà, ce parc en général, mais ce lac-là, vraiment, je rêve de le voir. Et un autre endroit où je...
Alors, avant que tu passes au second endroit,
ouais.
J'ai déjà envie de dire Wesh Moraine.
Oh là là, quel
Allez.
Salaud. Beaucoup de références au hip-hop, on va pas se
ouais.
mentir. Hein.
Bah Cyrus, tu grattes pas mal, toi, de toute façon.
Ah, mais moi, je suis un mec urbain, mais moi, ouais. Je suis un mec de la street.
Bah,
moi,
ça
donc,
se voit,
voilà.
Bah, dès qu'on te voit à débarquer, on a compris à qui on a affaire.
Je veux dire, tu manges plus, tu te nourris que du hip-hop.
Je bois hip-hop, je
ouais,
mange hip-hop, le hip-hop coule dans mes veines.
Et ben, respect pour ça. Et donc,
je t'en prie, maintenant tu peux passer.
Voilà. Donc, c'est une île sur laquelle j'aurais vraiment voulu aller, qui se trouve. Encore une fois au Japon. Et donc quand on est allé tourner l'épisode d'Étrange Escale à Tokyo.
Je l'ai avant
ouais.
que tu le dises.
Tu as le nom?
Ça commence par un N ou pas?
Ça commence par un A.
Ah, merde. Allez, c'est perdu.
Donc, c'est une île qui se trouve à peu près à 300 km au sud de Tokyo, donc au large du Japon, et qui s'appelle Aogashima. Donc, la particularité de cette île, déjà, c'est que quand on la voit en photo, on a l'impression de voir un paysage de RPG japonais, à la Final Fantasy. T'as l'impression de voir une map de Final Fantasy, quoi. C'est sublimissime, vraiment irréel. Et la particularité principale de cette île, c'est que c'est un cratère volcanique dans lequel se trouve un deuxième volcan. Donc, c'est deux volcans enchâssés.
J'ai vu des photos.
Et donc, le cratère est rempli de végétation. Donc, on a une espèce voilà, de végétation luxuriante. L'île est totalement verte à l'intérieur, sauf qu'elle est vraiment dans un bol comme ça volcanique. Et la dernière éruption a eu lieu au 18e siècle, je crois. Et au 19e siècle, et donc à l'époque, quand c'est arrivé, plus de la moitié des habitants de l'île ont péri, parce que si tu veux, c'est une cuvette. Donc quand le volcan pète, c'est terminé, quoi. Tu t'en sors pas, t'es vraiment au milieu du truc. Et puis en plus, il n'y a pas d'issue. C'est-à-dire que quand tu essaies de t'échapper, ben c'est la mer. Donc il n'y a pas grand-chose à faire.
C'est la merde, même.
On peut le dire. Et donc la quasi-totalité des habitants de cette île ont péri dans cette éruption il y a 200 ans. Et 50 ans plus tard, il y a d'autres personnes qui sont venues y habiter, malgré le danger. Et aujourd'hui encore, il y a à peu près 200 personnes qui y vivent. Alors pourquoi ? Pourquoi choisir de prendre ce risque-là ? Eh bien, c'est tout simplement parce que déjà, d'une part, ces gens ont leur propre petite île paradisiaque, donc qui est vraiment, encore une fois, comme je le disais, luxuriante, c'est très beau, très vert. Et en plus, donc, ils bénéficient de l'énergie géothermique du volcan, pour faire chauffer leurs aliments, notamment pour faire cuire pardon leurs aliments, pour se chauffer. Ils ont des hammams naturels sur cette île à cause des vapeurs du volcan, et ils produisent un sel qui est très recherché dans la cuisine japonaise, qui est donc un sel qui est cristallisé sur les vapeurs du volcan. Donc c'est de l'eau de mer cristallisée sur les vapeurs du volcan, donc qui lui donne une saveur unique. Donc ils exportent beaucoup de ce sel, et donc les gens qui vivent sur cette île sont en autonomie, en réalité. Ils ont besoin de personne, ils ont leur propre champ, ils vivent de leur pêche, ils vivent de leur culture, et il y a l'énergie du volcan, donc ils sont peinards. Vraiment, ils sont en autarcie totale. Je veux dire, le reste du monde pourrait s'effondrer, eux, ils continueraient leur life. Et en plus, pour y aller, c'est très compliqué, parce qu'il faut prendre un avion depuis Tokyo, aller sur une autre île, et de cette autre île, prendre un hélico pour aller jusque sur celle-là, parce qu'il n'y a pas de port,
vu que c'est un bol. J'allais te parler d'hélicoptère, moi je me suis dit, mais enfin, moi j'avoue, ça me donne envie de m'installer sur cette île. Première chose que tu fais, c'est que tu prends un hélicoptère, et s'il se passe quelque chose, bah juste tu prends ton hélicoptère et tu t'en vas.
Faut avoir le temps, quoi.
Permis hélicoptère aussi, accessoirement.
Oui, ouais. Tu passes ton permis hélicoptère. Ouais.
Mais faut avoir le temps. Mais en tout cas, voilà, ces gens prennent le risque actuellement qu'il y ait une autre éruption, et donc en contrepartie, ils ont cette vie paradisiaque sur cette île de RPG japonais.
Est-ce qu'il y a la fibre ?
Aogashima.
Il y a la fibre ?
Franchement, on parle d'une île japonaise, j'imagine qu'ils ont tout ce qu'il faut. Ouais.
Okay.
On ne fait pas de soucis pour eux.
Ok, ouais. J'avoue, ça donne envie d'y aller.
Mais donc, ces deux choix ne sont toujours pas le meilleur endroit pour toi à découvrir.
Le meilleur endroit.
Le meilleur endroit.
Ouais, ouais. Et ben honnêtement, bon, on n'a qu'à dire que.
Se connaître soi-même aussi, ok.
Non. On n'a qu'à dire que c'était Lanzarote, puisque pour le coup, j'y suis allé. Donc, okay. Je peux témoigner et dire que c'est un endroit fantastique. Après, évidemment, c'est impossible de répondre à cette question.
Bien sûr.
Mais je conseille cette destination, vraiment Lanzarote. C'est très, très beau, très dépaysant et assez proche, en plus de ça.
Donc, si on récapitule pour l'instant, si on prend nos trois choix que vous avez évoqués, on a le choix de Cyrus.
Qui est pas mal.
Qui est pas mal, qui est se connaître soi-même.
On peut partir sur Aogashima, du coup.
Aogashima pour toi ?
Ouais.
Okay.
Ah, tu viens de dire Lanzarote ?
Ah oui, pardon, j'ai oublié que j'avais répondu. Oui,
Lanzarote. On va dire que j'ai privilégié des endroits où on a été.
Voilà, pour ceux que j'ai visités, c'est Lanzarote.
Lanzarote qui est en Espagne, en Europe.
Exactement, aux Canaries, au sud de l'Espagne.
Il ne vaut pas manger de chorizo, d'ailleurs.
Pourquoi ?
Parce que si Lanzarote.
Ah, mon Dieu !
Lanzarote sent mauvais.
Mon Dieu !
Waouh ! On a El Chalten.
El Chalten.
Chalten, j'ai eu très peur de mal le prononcer. C'est ce qui s'est passé, mais c'était pas si dur comme
El Chalten qui a gagné le meilleur monstre. On a fait un podcast sur le meilleur monstre et c'est El Chalten qui a gagné.
Oh, aïe.
Mais non. Pff, c'est dur. qui se situe au Mexique ?
En Patagonie argentine.
En Patagonie argentine. Waouh.
Ça va, je l'ai dit vraiment trop tôt dans les
en géo, mais j'étais hyper fort en histoire, ok, au lycée. Ça a rattrapé.
Ça va.
Et du coup, moi, je vais ajouter mon choix, qui est un endroit qui se situe en Chine, qui est le parc de Zhangjiajie, que je prononce assez mal.
Ah, Jean Zadjé, le fameux Jean Zadjé.
De Yang Yadjé, c'est un parc dans lequel j'ai été, qui est un parc incroyable. C'est le parc qui a, pour faire simple, qui a inspiré James Cameron pour Avatar.
T'es allé là-bas ?
Ouais.
Oh là là.
C'est dingue. C'est magnifique.
J'ai failli le citer alors que j'y suis pas allé.
C'est un parc immense, 220 km², et en fait, il y a plus de 3000 pics karstique. En gros, c'est des immenses montagnes de roches qui ont subi l'érosion au fil du temps et du coup sont des formes assez différentes. C'est gigantesque et du coup, c'est des espèces d'immenses colonnes de pierre partout, de formes et de tailles variées. Et c'est magnifique. C'est un paysage vraiment somptueux à voir. Il y a tout un parcours qu'on peut faire à pied dans le parc où vraiment il y a très peu de touristes, où on est seul et il y a énormément de diversité d'animaux, de plantes, etc. Il y a des singes, il y a des endroits beaucoup plus isolés où il y a des... Il y a des cerfs, ouais. Il y a des panthères. Non, c'est bien, les gens pensent qu'on a du moyen en post-prod, c'est cool. Vas-y. C'est assez dingue, il y a 3000 espèces végétales, dont dedans un arbre qui est dingue, qui s'appelle le Ginkgo Biloba.
Biloba peut-être, non ?
Biloba, ouais, Biloba, exactement, merci. Le Ginkgo Biloba, qui est vénéré parce que c'est un arbre qui a des vertus exceptionnelles. C'est assez ouf, c'est un arbre qui date de l'ère des dinosaures. Et c'est une immense curiosité botanique parce qu'en fait, il est capable de survivre à des doses de radioactivité assez fortes. C'est un an après, par exemple, les bombardements atomiques de Hiroshima au Japon, ça a été un des seuls arbres à avoir refait des feuilles.
Ouais.
Et a priori, c'est aussi un arbre qui a une vertu de protéger des incendies. Enfin, c'est vraiment un truc de fou.
Au fait
Et voilà quoi, c'est vraiment un parc magnifique.
Et ben, très beau choix, hein, franchement. Parce que en Chine, on se rend pas compte
la
de,
diversité,
de la diversité
des paysages est dingue.
Moi, j'ai hésité avec le parc de Dangxia pour les lieux extraordinaires là, qui est donc constitué de montagnes multicolores hallucinantes, comme si on avait vraiment passé des crayolas géants sur des montagnes.
Mais toi, j'ai remarqué, t'es très couleur.
Ah, j'aime
vraiment
les couleurs.
Genre dans tous les c'est lieux vrai. Que tu nous cites. Ouais. Ce qui t'impacte vraiment, c'est genre.
C'est vrai.
Ce que tu retiens, c'est la couleur.
J'aime bien les couleurs, ouais, j'avoue.
Mais c'est pas un... enfin, c'est... Mais c'est intéressant, que... c'est intéressant.
C'est pas illégal, hein.
Comment vous trouvez vos lieux comme ça, ou tu vois, genre que ce soit
El Chalten,
ou tous les lieux que tu nous sors là, Patrick et tout. Comment, genre, moi là, je sais pas, demain, j'ai envie d'aller, je sais pas, en Angola. Comment je sais quels sont les sites cool à voir en Angola ? Est-ce qu'il faut que j'achète le Lonely Planet ? Ou est-ce qu'il y a d'autres astuces ?
Bah là, j'aurais envie de dire qu'il y a Internet qui pourrait te donner pas mal d'informations.
En fait, toutes les sources sont bonnes, quoi. Si tu as choisi d'aller visiter un pays en particulier, il y a un milliard de sources. Effectivement, Internet, c'est la mine d'or. Mais il y a des bouquins, il y a des documentaires. Enfin, il y a des tas de sources qui te permettent de constituer un petit parcours sympa. Et moi, en ce qui me concerne, c'est mon métier de chercher des trucs bizarres. Donc, je suis tout le temps en train de chercher. Et puis, parfois, quand je tombe sur un endroit, je le mets de côté, je le note. Et puis, j'en reparle par la suite. Mais... oui, y a pas de secret, quoi. Faut chercher. Il y a de quoi faire.
C'est quand même un des métiers les plus stylés du monde,
ouais,
hein, de chercher des trucs
mais
bizarres.
Mais Patrick, tu dois avoir tellement de sources.
Et de mémoire, surtout.
J'en ai pas mal, j'avoue. Mais c'est parce que j'ai une bonne mémoire pour les trucs qui m'étonnent, voilà. Donc, qui me marquent.
C'est pour ça que tu te souviens jamais du prénom de Cyrus, par exemple.
C'est méchant.
Ce matin, on était avec Jamy.
Exactement.
Il m'a appelé Cyril.
Petit name dropping, il t'a appelé Cyril. Oh là là.
Ouais. Quand j'ai filé mon bouquin pour qu'il le dédicace.
Attends, il t'a dédicacé à Cyril ou pas ?
Non, après,
ça
non parce qu'il
génial.
a dit Cyril, c'est ça ? Je fais non, Cyrus. Okay. Yes. Yes.
Ah là là.
Je vous propose qu'on continue avec un petit vrai ou faux, c'est la tradition dans cette émission. Je vous donne des affirmations, vous me dites si elles sont vraies, elles sont fausses, on en discute, on en rigole tous ensemble. Aujourd'hui, je vais vous citer des...
C'est vrai.
Des pratiques, des arts, des coutumes, des savoir-faire qui sont inscrits ou non au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Vous savez, il y a le patrimoine mondial de l'UNESCO,
ouais.
Où il y a des villes, des endroits qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais il y a également des pratiques immatérielles qui, depuis 2008, sont répertoriées et sont reconnues comme des trucs où vraiment c'est une richesse du monde et on fait tout pour le préserver.
D'accord, ok.
Déjà, c'est une info en soi-même, je suis pas un peu fier de vous l'apprendre.
Est-ce que c'est vrai ça ou pas ?
C'est vrai.
Okay, très bien, vas-y.
Est-ce que selon vous, dans ce classement très important, qui recense les trucs les plus importants du monde, se trouve la lutte gréco-romaine ?
Vrai.
Ouais, vrai.
Si, c'est vrai, je pense. Quand même quelque chose.
C'est important.
C'est important
de ne pas le perdre.
Eh bien, c'est faux.
Eh bien, c'est faux.
Yeah. Allez.
Faux. Tu ne vas pas demander.
Ça marche, c'est vrai. Est-ce que selon vous, est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO, la lutte à l'huile turque?
Vrai,
vrai.
Évidemment vrai. Bah évidemment, évidemment.
C'est vrai.
Qui est donc...
C'est une lutte ancestrale.
Plus culturelle que la lutte gréco-romaine.
Exactement. Une lutte ancestrale où les lutteurs combattent torse nu. Ils portent seulement une culotte qui s'appelle le kispet. Mais non. Ça mais s'invente non. pas. Mais non. Je vous jure. Après, peut-être que le T est muet à la fin, je sais pas. C'est peut-être kispet.
J'espère qu'il est pas muet, franchement.
K-I-S-P-E-T. Elle est faite en peau de vache et il se couvre d'huile d'olive de la tête aux pieds.
Ah, le kispet.
Voilà. Ouais, on est pas un podcast hyper intello, hein, Thomas,
attends.
Comme tu peux le...
Oh non, on va.
Oh merde.
Ah, le kispet.
Donc les mecs luttent en slip recouvert d'huile.
Ouais.
Oh là là,
exactement.
D'huile d'olive. Oh putain, d'accord.
Et c'est un vieux truc. Et du coup, c'est plus reconnu que la lutte gréco-romaine, a priori.
Ok.
La pétanque. Est-ce que la pétanque, c'est classé là-dedans?
Là, j'aurais envie de dire non cette fois.
Moi, je dirais faux. Hein.
Non, faux la pétanque. Oui, moi.
La pétanque, c'est faux.
La merde, putain.
La bière belge. La bière belge. Est-ce que vous pensez que c'est inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO?
Est-ce que ça serait immatériel, la bière?
Dans le sens où c'est pas un immatériel.
C'est pas un lieu, en fait.
Ouais, voilà, c'est okay. pas un lieu. C'est pas un, une archive. Un...
La bière belge.
Bah, c'est la tradition de la bière belge, en fait. C'est le savoir-faire de la bière
faux,
belge.
Faux, faux, faux.
Vrai.
Faux.
Vrai.
Moi, je dirais vrai.
C'est vrai.
Ah.
C'est vrai, c'est une bonne nouvelle. Le vin français.
Eh ben, faux, bizarrement.
Faux.
Eh bien, c'est faux. Le vin, ça n'y est pas, mais au patrimoine de l'UNESCO, il y a les vignobles de Saint-Émilion, de Champagne et de Bourgogne qui sont. Mais ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est qu'au patrimoine immatériel de l'UNESCO, il y a le repas gastronomique des Français qui est inscrit.
Ah.
C'est-à-dire, la pratique, je fais des guillemets avec mes doigts pour expliquer exactement ce qui est cité, la pratique sociale coutumière destinée à célébrer les moments les plus importants de la vie des individus et des groupes, tels que les naissances, mariages, anniversaires, succès, retrouvailles. Il s'agit d'un repas festif dont les convives pratiquent pour cette occasion l'art du bien manger et du bien boire.
D'accord.
Est-ce que c'est pas trop stylé, quoi?
On veut garder ça.
Attends, c'est stylé, mais ça, je savais pas que c'était propre aux Français, ça.
Bah, a priori. Ils disent que ce qui compte dedans, ce qu'ils avaient entré dans la liste, c'est le choix attentif des mets parmi un corpus de recettes qui ne cesse de s'enrichir, l'achat de bons produits de préférence locaux dont les saveurs s'accordent bien ensemble, le mariage entre mets et vins, la décoration de la table et la conversation de discours gastronomique. Et ce savoir-faire-là, c'est reconnu au patrimoine immatériel mondial.
Alors, vous le voyez pas, mais Tom est tellement fier.
Non, mais je trouve ça fou.
Il a un sourire.
Non, mais ce qui est vrai, c'est qu'on est capable de parler de bouffe pendant 2 heures alors
ouais.
qu'on est à table.
Clairement.
Et ça, il doit y avoir assez peu de gens capables de le faire.
C'est vrai.
C'est une sorte de fierté, quoi. La pizza napolitaine.
Oui. Bah, me dis pas non.
Faux.
C'est vrai.
Ah, yes.
Le signe de Joule. C'est faux pour l'instant. Ouais. Le yoga. Tiens, est-ce que le yoga, c'est au patrimoine mondial immatériel?
Moi, je dirais non, parce que je crois pas que ce soit spécifique à une région en particulier. Je dirais faux.
On est sur un faux chez Patrick.
Ouais, vas-y, faux, ouais.
C'est vrai.
Olé.
Savoir-faire indien.
Ouais, c'est vrai.
D'accord.
La musique classique.
C'est faux.
Ah, faux.
Un genre musical, c'est trop compliqué.
Trop vaste.
Non, c'est faux.
Yes.
Le reggae.
Ah, bah c'est vrai, alors. Reggae, c'est vrai.
Propre à la Jamaïque.
C'est vrai. Allez. Pour tout le côté lutte sociale, politique que ça...
Ouais.
Et le fest-noz.
C'est quoi ça?
C'est des Bretons là.
C'est un festival breton.
C'est une sorte de reggae breton. Hein,
ouais. Exactement.
Non.
Et le fest-noz, c'est vrai.
Oh là là.
Le fest-noz a été inscrit au patrimoine mondial immatériel.
En fait, tout ce qui est lié à fortement à un pays, apparemment.
Ou à une région, ouais. Chers amis, chers invités, ce podcast touche à sa fin. Pardon.
Oh.
Du coup, ce serait le temps de se mettre d'accord.
Ouais.
Selon vous, quel est le meilleur endroit à découvrir sur Terre parmi les nombreux endroits qui ont été cités durant ce podcast, ou en tout cas celui qui vous a donné peut-être le plus envie de découvrir? Je pense que c'est ça qui peut être intéressant pour pas voter pour un truc que nous on a présenté. Parmi tous les trucs dont on a parlé, quel est celui qui vous a donné le plus envie de voyager et de visiter?
Alors, moi je propose un dernier micro tour de table.
Oui.
De une micro minute de plaidoyer, très rapide.
Si tu veux. Surtout toi, t'en as besoin, j'ai l'impression.
Voilà. Moi, je pense que se découvrir soi, c'est accéder à un voyage permanent, accéder à un voyage éternel, c'est être toujours en extase face à tous les éléments de la vie. Je pense que c'est aussi ne jamais connaître le malheur profond, parce qu'il y a ce détachement, parce qu'on est l'observateur, parce qu'on n'est pas celui qui subit. Je pense que tout ça, ça vaut bien un petit ticket d'avion vers une petite forêt en Chine. Voilà.
Ah, c'était tellement ciblé la fin, putain.
Voilà. J'espère que ça vous a donné envie, en tout cas.
Est-ce que vous voulez faire un plaidoyer, Thomas ?
Moi, je pense pareil que Cyrus, mais je pense que le meilleur endroit pour se découvrir soi-même, c'est El Chalten.
Allez, bim. Il est vraiment dans une logique de hack du début à la fin. Ouais. Thomas, vraiment, ouais, il veut faire une OPA sur le podcast. Patrick ?
Honnêtement, pour moi, c'est une question impossible. Parce que tous les lieux ont leur particularité, leur intérêt, leur beauté, leur richesse. Donc, c'est impossible de dire ce lieu est le meilleur du monde. Donc,
toi, il faudrait le plus coloré, quoi.
Non, mais les lieux valent justement par leur diversité, tu vois. Donc, pour moi, c'est pas possible de répondre à cette question. Maintenant, s'il fallait en choisir un que j'ai pas proposé moi, je te rejoindrais tout à fait sur le parc que tu as cité.
Yangjiajie.
C'est un lieu incroyable. Okay. Et j'ai failli venir avec ça, donc tu vois.
Donc toi tu voterais pour ça, du coup on est passé au vote. Toi tu voterais pour Yangjiajie, Cyrus ?
Non, moi j'avoue, celui qui m'a donné le plus envie parmi toutes les propositions là, en vrai c'est Lanzarote.
Oh merci Cyrus. Puisque c'est ça, je dis Lanzarote aussi et je gagne. Voilà.
Non, attends,
terminé. On a pas droit de faire ça, Patrick. Ça se passe pas comme ça.
Généralement, ce qu'on fait, c'est on fait un choix 1 et un choix 2.
Ah, d'accord.
Ça dépend. Sauf quand des fois, il y a des choix 1 qui corroborent.
Oui, mais là, il y a.
Je sais pas. Parce que moi, j'ai. Attends, on n'a pas dit pourquoi on votait encore avec Thomas.
Vas-y.
Moi, je votais pour le choix de Cyrus. Pause, je rigole.
Ah, bâtard, j'ai cru.
Non, moi, je vais rejoindre Thomas. Écoutez, voilà. Allez. Je trouve, franchement, ce petit village, en plus, il me l'a.
Moi, je suis frustré. On m'en a pas assez parlé de ce village. Je sais pas trop.
C'est vrai, on visualise peu.
C'est vrai que
je suis allé assez vite. Mais en fait, ouais. c'est vrai que la particularité de ce village, c'est qu'il n'y a rien, en fait.
Enfin, tu nous l'as vendu.
C'est vraiment un village qui est enclavé dans une montagne. C'est aplati au niveau du village. T'es entouré de montagnes magnifiques, de la cordillère des Andes qui est un nom qui normalement doit suffire un petit peu à éveiller l'imagination, mais en fait c'est battu par les vents, c'est de la pampa, donc c'est du sable par terre, il y a une route pour y aller, il y a des rivières qui passent à côté, etc. Mais c'est un endroit où il n'y a rien, c'est pas un endroit où je vais pouvoir les seules personnes qui sont faciles à convaincre, en fait ça va être les randonneurs, les gens qui aiment vraiment la nature, ouais. Et les grimpeurs, quoi. C'est d'ailleurs, il n'y a que ces gens-là là-bas, en fait. C'est un endroit qui me plaît vraiment.
Et moi, c'est ça qui m'attire, c'est vraiment le côté dépaysement le plus total. Et là, comme tu le racontes, et comme tu me l'as aussi raconté en amont de ce podcast pendant la préparation, c'est vraiment ce truc désertique, entre guillemets, et ouais, où il a l'air de se passer pas grand-chose. Mais au final, c'est ça qui a l'air hyper cool et qui est très dur aujourd'hui à accéder, je trouve.
Et si tu veux, Cyrus, pour une petite histoire, essayer de t'emmener un peu dans le paysage, on a eu la chance de pouvoir aller faire un tour à cheval avec un gaucho dans les montagnes un petit peu pendant une journée. Donc tu vas dans une estancia après 2 heures de route, mais qui sont des chemins en fait de terre. Tu roules pendant 2 heures, tu arrives dans une estancia avec un gaucho qui parle du coup espagnol, qui dort dans les box avec ses chevaux et qui t'emmène pendant toute une journée dans la montagne à faire un petit feu pour te faire à manger, etc. Où tu croises du coup des cadavres d'animaux, il y a des chevaux sauvages, enfin c'est vraiment la nature pure, quoi.
Thomas, tu votes pour quoi ? C'est pas pour
Alors, en choix 1, je pense que je vais voter pour Cyrus.
Allez !
Waouh ! Je refuse. Oh, Patrick, faut qu'on s'allie. Je refuse ce comeback.
Je vais voter en vérité pour ça parce que je suis assez d'accord sur le fait que souvent, et en fait, je pense que le voyage des années 90 et des années 2000 a été complètement perverti par l'impression de destination, etc. Et qu'en fait, les gens sont allés partout sans aller nulle part et prendre 3 photos, se dépêcher, cocher des croix sur une bucket list pour rien, et qu'aujourd'hui on commence un petit peu à comprendre que si on va à un endroit, il faut prendre le temps, s'immerger, parler la langue, etc., etc. Donc je pense que la réponse de Cyrus est pas mal. Et en 2, je vais aller vers Banff, donc le lac Moraine, parce que c'est un endroit où j'ai vachement envie d'aller, et que voilà, dans ces endroits là du Canada, très proche de l'Alaska, etc., il y a des paysages magnifiques et je pense que c'est pas mal.
Sublime. Okay. Mais c'est vrai que la réponse de Cyrus, ce serait une bonne conclusion, parce que c'est impossible de choisir un meilleur lieu. Et donc c'est vrai que ce serait une jolie conclusion de dire oui, c'est soi-même, quoi, tu vois, parce que finalement tu où que tu ailles, tu amènes tes problèmes avec toi si ça va pas bien.
Exactement.
Et puis si t'es heureux, tu projettes cette joie sur les paysages que
voyager,
tu
vois. Voyager, ce n'est pas fuir.
Quelqu'un à se retrouver.
La journée de quelqu'un est gâchée. Il faut quand même le.
Il faut dégoûter.
Non, mais ton parc est super. Moi, j'avais.
Mais ce parc est vraiment incroyable. Je vois très bien à quoi ça ressemble.
Merci.
Il est incroyable, mais il est forcément.
C'est un des paysages les plus fous du monde.
Il est forcément moins beau que l'intérieur d'une personne humaine. Voilà.
C'est... Oh là là. Non, mais ça, bon, faut reconnaître que c'est vraiment triché parce que c'est contourner totalement la question.
Mais il le fait tout le temps.
Oh, c'est
le
pas vrai.
On a fait l'épisode Le meilleur monstre, on a tous pris des trucs, il a pris le diable, il fait tout le temps ça.
Bah, c'est un
il prend le truc le plus cheaté.
De l'anti-jeu.
Mec, c'est le meilleur monstre, le diable, je suis désolé. Non, mais c'est pas du cheat.
Non, non, c'est un bête de monstre. C'est un bête de monstre, le diable, quand même.
Ok. Donc, officiellement, le meilleur endroit à découvrir dans le monde, c'est soi-même. Bravo! Ah! Non, bravo. En vrai, c'est une belle réponse.
C'est tellement vrai, mais
voilà,
oui.
Plein de philosophie. Toi.
Tout ça pour ça, c'est un petit peu.
Ouais.
La déception.
Ouais.
Non, mais moi, je trouve que c'est vraiment une chute parfaite. Parce que, voilà, encore une fois, tu peux pas dire dans le lieu, c'est le meilleur lieu du monde. Donc, c'est une
c'est
jolie
vrai.
Conclusion.
Et que
ni
si,
d'un
on
poisson,
avait,
d'ailleurs.
Si on avait fini par choisir avec tous les gens qui écoutent ce podcast, cet endroit aurait été perverti.
C'est vrai.
C'est vrai.
Ah ouais.
Et peut-être que tout le monde va aller dans Cyrus maintenant.
C'est vrai.
Désolé.
Attends, moi, faut que je fasse gaffe à mon qui se pète.
C'était plus ça. Le qui se pète. Merci beaucoup Thomas et Patrick d'être venus partager ce moment d'échange de globetrotter, hein, comme on peut le dire.
Ouais.
Merci.
C'était un plaisir. Thomas, comment on suit ce que toi et les Others faites?
Normalement, l'instant promo, c'est maintenant.
Voilà.
Ok. Du coup, je le redis ou je l'ai déjà dit?
Vas-y,
pendant l'épisode.
Redis-le.
Rapidement, on suit sur les réseaux sociaux, hein, les Others. On peut acheter le magazine aussi dans les, sur le site, enfin, sur Internet ou dans les super bonnes librairies qui vont bien.
Les LES, plus loin, Others, O-T-H-E-R-E-S. O-T-H-E-R-S, pardon.
Et le podcast
sinon,
Les Baladeurs.
Écoutez le podcast Les Baladeurs, bien sûr. Ouais. Maintenant, c'est le bon moment pour le faire.
Exactement. Maintenant, vous pouvez y aller.
Allez-y.
Allez-y et allez écouter. Écoutez le premier épisode. Vous pourrez entendre cette histoire
c'est,
dont
c'est
j'ai
tout
dit
combien
quelques
temps
mots tout à l'heure. C'est toutes les deux semaines.
Ok.
On commence la saison 2 dans.
Et ça dure combien de temps,
jours. C'est des épisodes de 45 minutes.
Ok.
À peu près. Avec une personne qui vient te raconter une aventure qui lui est arrivée dans la nature. Aventure ou mésaventure.
C'est hyper cool, mais... et c'est très agréable à écouter. C'est vraiment juste des témoignages de voyageurs, ouais. Un peu de l'extrême d'aventuriers ou pas forcément, mais qui ont eu des anecdotes et tout. Et c'est
ouais,
hyper agréable à écouter.
Et d'ailleurs, Patrick, il y a peut-être un truc à faire avec la veillée. Hein.
Par rapport, oui, tout à fait. Excusez-moi, là je suis très impoli, j'étais en train de répondre à un message.
À Jamy, super sympa, on
mais
va
non,
les
prêts. Mais oui, bien sûr. Moi je suis toujours ouvert à de nouvelles histoires. Pour ce spectacle qui s'appelle La Veillée, tu veux peut-être expliquer.
Oui, alors
ce que
en fait, donc Patrick Beau et Damien Maric, ils ont amené sur scène quelque chose qui s'appelle La Veillée, c'est-à-dire que on reproduit une sorte de feu de camp et il y a quelqu'un qui arrive et qui raconte son histoire sur scène devant des gens. Souvent, c'est des histoires qui sont émouvantes, c'est des histoires qui sont assez fortes.
T'étais venu une fois?
Non, jamais. Et à chaque fois, il y avait plus de place. Enfin bref, c'était.
Alors je précise que la prochaine édition, c'est le 23 avril à Paris, au théâtre Tristan Bernard, et que les places sont disponibles sur la FNAC.
Ah, dès maintenant là ?
La Veillée. Tout à fait, allez-y.
Ok.
Et bref, quand tu parlais des histoires d'aventure, etc., machin, typiquement, c'est le genre d'histoire qu'on pourrait écouter aussi à La Veillée. Donc c'est pour ça que je me suis dit, ça se trouve, il y a un truc à faire. Enfin, bref.
Là, c'est vraiment comme ça qu'on l'a pensé en plus, comme si quelqu'un te racontait un petit peu un secret, comme au coin du feu, etc. Quoi. On veut pas une histoire qui a été racontée partout, sur tous les plateaux télé, etc. C'est vraiment quelqu'un vient te raconter un truc que lui et ses quelques potes savent. Et voilà, après tout le monde le sait du coup, mais en tout cas, au moment où il le raconte, c'est vraiment quelque chose d'intime et de perso. Quoi.
Ok, cool.
Patrick, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi?
Sur la chaîne YouTube Axolot, alors j'annonce que le prochain épisode des Étranges Escales sera la semaine prochaine. Si vous écoutez ce podcast, on est le combien là?
Là, on va
être le 21 mars. Ouais. Le podcast sort le jeudi 21 mars.
Eh bien, si vous êtes le 21 mars, il y a même de fortes chances qu'il soit déjà sorti l'épisode.
Oh,
en tout cas,
vous pouvez enchaîner avec les podcasts des baladeurs, la dernière épisode d'Étranges Escales.
Et donc, c'est l'épisode de Berlin, voilà, qui sort cette semaine.
J'ai vu le plan de la fin et je peux vous dire que c'est assez fort. C'est
merci.
Assez fort.
Et donc, effectivement, La Veillée, voilà, le 23 avril, le théâtre Tristan Bernard. Et on va avoir de chouettes histoires, notamment un aventurier qui a bien roulé sa bosse, on peut le dire, et qui aura de belles histoires à raconter.
Qui s'appelle? On n'a pas le droit de le savoir.
Non, je peux pas balancer les noms.
C'est Bear Grylls.
Je vous dirai hors antenne.
Et moi, j'en profite, vu qu'on est le 21 mars, Tom.
Oui. C'est le printemps.
J'en profite pour souhaiter bonne année à tous les Iraniens qui nous écoutent aussi. C'est le nouvel an iranien, c'est Nowruz, parce que c'est effectivement le printemps. Enfin, c'est le l'Equinox, tout ça.
Est-ce qu'on a les stats sur le nombre d'Iraniens qui écoutent le podcast?
Je vais faire un recensement. Je sais qu'il y a ma mère et moi déjà. Et voilà, il faut que je fasse un recensement.
C'est comment le nom qu'il faut dire en iranien?
Nowruz.
Nowruz. Voilà. Nowruz, ça veut dire bonne année?
Nowruz, c'est le nouvel an.
Ok. Et il n'y a pas une petite formule qu'on peut dire?
Nowruz Mubarak ou Eidet Mubarak.
Eidet Mubarak à tous nos amis iraniens.
Alors, si c'est à tous nos amis, c'est Eidet Shomem Mubarak.
Eidet Shomem Mubarak.
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 Ça marche.
Cyrus et nous, on se retrouve où?
Nous, on se retrouve sur ce podcast la semaine prochaine.
Yes.
Merci beaucoup à nos invités. Merci à vous
merci
qui nous écoutez.
Merci.
Merci pour votre fidélité. On fait de gros gros bisous. Et
on se quitte en chanson.
On se quitte en chanson.
3, 4.
Simply the best. Down, 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 down.
Soi-même qui se pète. Si vous écoutez encore, c'est que vous avez peut-être bien aimé ce podcast. Alors merci.
Ouais, merci beaucoup. Et pour nous aider à le faire connaître et à le faire grandir, vous pouvez faire plusieurs trucs.
Alors déjà, vous abonnez au meilleur podcast sur vos applis de podcast. Et oui, j'ai dit beaucoup de fois podcast.
Il y a un autre truc important, c'est le noter 5 étoiles et mettre un petit commentaire sur Apple Podcast.
Ouais, ça nous aiderait beaucoup pour le référencement et pour le faire découvrir à d'autres personnes.
Et enfin, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne louper aucun épisode. Les liens sont en description.
Et au passage, on remercie Nouvelles Écoutes qui a coproduit cet épisode.
À jeudi.
À jeudi prochain.
Simply the best. Tain, 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 tain.